Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Ils sont exceptionnels, vous vous rendez compte, il est 3h du matin, c'est incroyable. Quoi. Ils sont toujours là, toujours à nous soutenir et les joueurs ont gagné ce match pour eux.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Marie Martineau, Marion Bartoli, Marc Madio, super La Rochelle, sublime Rochelet, qui se sont imposés hier en finale de Champions Cup après un scénario complètement dingue. Si vous avez raté notre débat, est-ce un match qui va entrer dans l'histoire du rugby français? N'hésitez pas à aller nous télécharger en podcast. C'était à 9h, on reviendra sur les festivités tout au long de la journée sur RMC. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour du Giro et un Français qui a créé la sensation hier en endossant le maillot rose. Il s'appelle Bruno Armirail de la Groupama FDJ. C'est une première pour un Français depuis 1999. Est-ce un événement? Ce sera notre question. Et puis on reviendra également sur les nombreux couacs qui ont émaillé ce Giro 2023 depuis deux semaines. 11h30, c'était mieux avant, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux.
Ah, il y a mon Christophe, 30 ans, plaisir.
Quasiment jour pour jour, l'OM a jamais les premiers. L'OM devenait la première équipe française a remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes et à ce jour, la seule, évidemment. Hier, il a vu la vie en rose.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
C'est fait, Christophe, c'est le 17e Français de l'histoire qui va revêtir cette tunique rose. 24 ans, qu'un tricolore n'avait pas porté le maillot de leader du Giro. C'est le premier de ce siècle. Il succède dans la petite histoire du vélo à Laurent Jalabert, 1999, Bruno Armirail, l'équipier modèle qui disait il y a deux ans dans une équipe de vélo, c'est comme à l'usine, il y a une hiérarchie, il vaut mieux pas être celui qui fait tout pour être le patron. Et bien lui va le devenir, le grand leader du Giro. Geraint Thomas a été pris au piège, son équipe Ineos a préféré céder cette tunique et ne plus porter les responsabilités de la course. Demain, c'est un Français, Bruno Armirail, titulaire du maillot de la Groupama FDJ, qui va troquer sa tunique bleue contre une tunique rose. Demain, au départ, il pourrait même conserver ce maillot de leader à l'issue d'une étape difficile demain. Et pourquoi pas rêver d'une étape de repos avec ce maillot rose de leader du Giro. Magnifique histoire pour Bruno Armirail et magnifique histoire pour Marc Madio et son équipe de la Groupama FDJ, qui efface la déception de Thibaut Pinot, deuxième hier, et qui troque avec bonheur cette déception pour cette immense joie, celle de Bruno Armirail en rose dès demain sur le Giro.
Vous avez vécu ce moment sur RMC. Bruno Armirail vient donc de se faire un nom. Le discret coureur de la Groupama FDJ a réalisé hier sur le Giro quelque chose d'impensable, revêtir le mythique maillot rose de leader, une première, je le disais, pour un Français depuis 1999. Pourtant, hier matin, avant le départ de cette 14e étape, Bruno Armirail comptait plus de 18 minutes de retard sur le leader Geraint Thomas. Quelques heures plus tard, et une échappée au long cours, le voilà en rose avec près de 2 minutes d'avance. La musique qui fout les jetons, mais GG, cette question. Un Français en rose, est-ce un événement? Pas forcément dire oui, parce que Marc est là. Oui ou non?
Attention, j'écoute.
Christophe Cessieux.
Mais oui, c'est un événement, bien sûr.
Marion Bartoli.
Oui, bien sûr.
Marie Martineau.
Attention à ce que tu vas dire.
Je peux défendre le nom, t'inquiète pas. Tu fais comme tu veux.
Qu'en pense Marc?
Marc Madio, est-ce un événement?
Bien sûr.
Marie, bien Marie. Sûr. Oui, ça reste un événement. Ça reste un événement.
Un événement,
c'est un bien grand mot quand même.
Ah, c'est pas forcément un événement.
Ouais, je pense que je suis plus feutrée que mes potes.
Eh ben, j'arrive dans quelques instants. Bruno Armirail, hier en rose, je vous propose justement d'écouter sa réaction.
C'était pas vraiment le plan. Hein. Voilà, le but, c'était de prendre l'échappée. De viser la victoire d'étape, j'étais très très loin d'imaginer de prendre le maillot rose ce soir. Pour moi personnellement, c'était un rêve. Enfin, j'en reviens toujours pas, quasiment après deux semaines de course. Quoi.
C'est un rêve, je n'en reviens toujours pas. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Un Français en rose, est-ce un événement? C'est notre débat. N'hésitez pas à réagir avec nous. Mitigé, Marie Martineau, pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on en revient toujours à la même chose, le contexte. Il le dit lui-même, c'est un maillot rose malgré lui, parce qu'en fait, finalement, Ineos n'a absolument pas roulé, pour des raisons que nous expliquera sûrement Marc, mais le fait est qu'ils n'ont pas roulé, qu'ils ont laissé cette échappée se faire et creuser un écart de dingue. Donc, malgré lui, un maillot qui, a priori, qu'il ne portera pas bien longtemps, hein, parce que la troisième semaine s'annonce très difficile, avec des grosses étapes, et que du coup, on va le perdre assez assez vite. Alors, je n'enlève rien à l'exploit, parce que ça veut quand même dire que sur ces deux premières semaines, il était là, hein, même s'il avait 18 minutes de retard, il était là. Mais voilà, de là à dire que c'est un événement, je ne sais pas si on peut le comparer à Alaphilippe en jaune il y a quelques années, avec un peu plus de prétention et qui a duré un petit peu plus sur le temps. Voilà, est-ce que Marc est si... je ne l'ai pas vu débarquer ce matin dans le studio en fanfare, en mode on a le rose, quoi. Voilà, donc je
il est déjà arrivé en fanfare, Marc Madiot, dans ce studio.
Rarement.
Est-ce qu'hier, tu as dit tu es grand, Bruno, tu es grand, tu es le plus grand, Bruno, hier. Est-ce que dans ton canapé, tu disais ça, Marc?
Non, j'ai rien dit du tout.
Tout fout le camp.
Non, mais, bon, Marc, véritablement, c'est un événement? Forcément, parce que c'est depuis 99 que on n'a pas réussi à faire ça pour une équipe française.
C'est un bon moment pour la vie d'une équipe, pour un coureur. On est tous d'accord pour dire qu'il y a eu des circonstances de course, mais il fallait être là le bon jour au bon endroit au bon moment, et il était là le bon jour au bon endroit et au bon moment. Et ça arrive de temps en temps. La preuve, la dernière fois, c'est 99 avec Jalabert. C'est la première fois de ce siècle qu'un Français porte le maillot rose. Donc pour tout ça, pour l'histoire, pour la magie de ce maillot, c'est quelque chose de bien. Et puis le Giro a cette faculté à permettre des moments qu'on ne rencontre pas sur d'autres courses par étapes, comme le Tour de France. Le Giro est plus... plus décalé dans son fonctionnement que n'est le Tour de France. Le Tour de France, tout est verrouillé, stéréotypé, et il y a peu de place pour le romantisme. En Italie, sur le Giro, quand vous vous en présentez sur le lieu de départ, déjà, vous sentez une ambiance différente, vous sentez un truc sympa, décontracté, et une course qui offre des perspectives. On voit bien, chaque jour, il y a des tentatives d'échappée qui vont souvent au bout. Sur le Tour de France, on n'a pas ça. Mm-hmm. On est dans un truc beaucoup plus verrouillé, beaucoup plus structuré, tout simplement parce que le Tour de France a une importance immense par rapport à un Tour d'Italie. Mais quand vous parlez à un coureur et à un directeur sportif ou un membre d'encadrement, si on leur demande quelle course ils préfèrent faire ou... à laquelle ils préfèrent participer.
Ils vont dire le Giro.
Ben ils vont tous dire le Giro parce que le Giro, il y a du romantisme, il y a ces ouvertures, il y a ces possibilités d'aller chercher des résultats. Mais en même temps, on a tous besoin du Tour de France pour vivre. Donc voilà, c'est un équilibre. Mais c'est le Giro, il y a une part de magie et on est encore quelque part avec le Giro en contact avec ce qu'était le cyclisme il y a 20, 30, 40 ou 50 ans.
Comment on fait quand on est, et ensuite je donnerai la parole évidemment à mes petits camarades, à Marion et à Christophe, quand on est patron d'équipe comme ça, d'équipe importante, d'équipe française, qu'on a un de ses coureurs qui n'est pas le leader, j'entends bien, mais qui a quasiment 2 minutes d'avance sur Geraint Thomas, c'est un nom Geraint Thomas, à une semaine de l'arrivée. Est-ce qu'on se prête au jeu? Est-ce qu'on se prend à y croire?
Non. Non, on n'y croit pas spécialement. On va pas changer notre stratégie de course.
Pourquoi on la change pas?
Parce qu'on sait ce qui va arriver dans les prochaines étapes.
Regarde le tracé des 4 prochaines étapes.
Donc, on sait que ça va être compliqué, mais pour Bruno, comme lui ont dit ses copains, et notamment Rudy Mollard, profite du moment, profite de l'instant. C'est un moment de magie. Il va être le centre de la course, le pôle d'attraction d'une course internationale, de réputation mondiale. Et il va être le pôle d'attraction pendant toute la journée. Il va avoir une caméra sur lui qui va observer ses faits et gestes et qui va magnifier ce qu'il est. C'est un coureur de l'ombre, c'est un équipier. Mais aujourd'hui, pendant 24 heures, peut-être un peu plus, il va devenir un autre homme, un sportif connu et reconnu. Et c'est un moment qui va marquer sa vie de sportif à titre personnel. Voilà. Et c'est ça qui est magique à travers ce maillot rose qu'il va porter aujourd'hui et peut-être demain, mais au moins aujourd'hui, et c'est fantastique.
Tu l'as eu hier ?
Je l'ai eu hier,
oui. Tu lui as dit quoi ?
Ben, je lui ai dit que j'étais fier de lui, que j'étais content pour lui. Mais figurez-vous qu'il y a depuis une dizaine de jours, je vais sur pas mal de courses. Je suis passé dans les courses bretonnes. Je leur ai dit, les gars, si vous faites ce qu'il faut, si vous êtes collectif, vous allez gagner. Ils ont gagné. Je suis allé sur les 4 jours de Dunkerque. J'ai dit aux gars, si vous êtes solidaires, si vous êtes comme vous étiez dans l'équipe de jeunes de la Conti l'année dernière, sur les 7 coureurs qu'il y a au départ des 4 jours de Dunkerque, il y a 5 coureurs qui ont autour de 20 ans. Je leur dis que si vous travaillez et si vous gardez l'état d'esprit que vous aviez quand vous étiez à la Conti, vous allez gagner. Ils ont gagné, on est aussi maillot rose sur les 4 jours de Nanterre.
Avec un jeune qui s'appelle Romain Grégoire, dont on va entendre parler dans les années à venir.
Et quand je suis allé, donc le lendemain, j'étais en déplacement pour visiter l'équipe au Giro. Et j'aurais dit, les gars, faites votre vie, faites votre course. Il va y avoir des ouvertures, c'est une course à ouverture le Giro. Et vous allez avoir des opportunités. Qu'on soupçonne pas, qu'on n'imagine pas, mais vous allez avoir des opportunités. Et hier soir, on était en rose.
T'es quand même tombé de l'armoire hier, un peu.
Non. Oui, est-ce que t'as déjà appelé ton fournisseur de maillots pour vite faire faire un maillot rose?
Non, c'est bien organisé.
Vous en avez forcément. Non, mais je posais vraiment la question.
Les maillots sont fournis par l'organisation. Alors le seul truc que l'on fait dans ces moments-là, c'est
le
qu'on
bus.
Prépare un vélo spécial
aussi
rose.
Est tout rose.
Non, c'est une photomontage.
C'est une photomontage.
On a pas les moyens.
Ça me semblait étonnant quand même d'avoir refait la peinture.
Un covering comme ça pour un bus, ça coûte une blinde.
Ouais, c'est clair.
Mais je le trouvais magnifique.
Ouais, il est bien. J'ai gardé la photo.
Et Marc Madiot compte ses sous quand même. Les copains sympas. Il gaspille pas comme ça juste pour un
non mais le vélo quand même,
ce qui est dingue, c'est que le vélo, j'ai vu les images de l'équipe hier, il fait le tour des médias, les podiums et tout, et il va au camion atelier, et là il y avait déjà son mécano en train de fignoler son vélo pour demain.
Bah oui,
on met un coup de peinture, mais
non, dans le camion on a des cadres, différentes tailles de cadres avec les maillots, avec des couleurs représentant les maillots de leader. C'est-à-dire que si vous venez dans le bus du Tour de France, par exemple, il y a des cadres jaunes, il y a des cadres verts, il y a des cadres à pois, etc.
C'est génial.
Pour au cas où.
D'accord.
Et il y a aussi des casques, des guidolines, etc. Bon, malheureusement, on passe plus souvent de temps à ne pas s'en servir qu'à s'en servir.
Mais là, en l'occurrence, ça va servir. Okay. Christophe, c'est un événement, ce qui s'est passé hier.
Oui, c'est un événement parce que ce maillot rose fait partie des maillots mythiques du vélo. On a évidemment en France le maillot jaune, le maillot à pois, mais le maillot jaune surtout. Il y a le maillot arc-en-ciel de champion du monde, les maillots de champions nationaux et le maillot rose. Le maillot rose, c'est le maillot de copie, c'est le maillot de Gimondi, d'Anctil, de Merckx,
du Giro.
Tous ces mecs-là qui ont marqué l'histoire du vélo. Et je trouve que l'histoire est belle et qu'il n'y a que dans le vélo que tu peux connaître ce genre de choses.
On est un des rares sports où il y a cette tunique. Et pour l'avoir vécu à titre personnel, mais on voit bien dans le regard du coureur, quand on endosse un de ces maillots, on change. On se transforme instantanément. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être champion de France et quand j'ai enfilé le maillot de champion de France, je suis devenu un autre coureur instantanément. Et quand on endosse le maillot jaune...
En plus,
maillot...
tu le portes pendant un an, le maillot de champion de France.
Non,
là,
mais...
ça te marque.
Et le maillot jaune ou le maillot rose, c'est la même chose.
Même si c'est un peu par hasard.
Ah ouais. Franchement, ça te transforme Regardez le regard d'Armirail. Regardez son regard. Il va avoir ce maillot pendant 24 heures, mais il est transformé. Il va être un autre homme pendant une journée. Pendant une journée, il est différent.
Magnifique. L'histoire est belle. Moi, j'ai un copain, juste un exemple, qui a été mon chauffeur à l'époque. Je travaillais sur une autre radio. Nous avions des chauffeurs sur le Tour de France.
Ah, mais pardon.
Oui, tu
savais qu'il y avait un chauffeur à la
papiers, tu faisais tes directs et tu avais un chauffeur qui t'accompagnait.
Il allait réclamer son chauffeur.
Il s'appelle Roland Leclerc et il a eu l'opportunité un jour de porter le maillot Amarillo, qui était le maillot de leader du Tour d'Espagne. Il l'a porté pendant 3 jours. Ça a changé sa vie. Depuis, chaque fois qu'il arrive quelque part, c'est « Ah, Roland Leclerc, ancien maillot Amarillo du Tour d'Espagne. » Et ad vitam aeternam, Bruno Armirail aura porté le maillot rose du Tour d'Italie. Tout au long de sa carrière et son après-carrière, ce sera...
Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, je trouve extrêmement dommage que quand on est champion olympique, on n'a pas le droit d'avoir une distinction qui permet de rappeler.
Il y en a qui se la font tout seul. Hein.
Il y a qui se la font tout seul, il y en a qui ont des amendes. Imaginons être champion olympique et avoir un maillot de champion olympique quand vous êtes coureur cycliste, ce serait fantastique.
Mais vous avez déjà plein de maillots.
Ouais, mais il y a l'histoire de casque doré.
Mais c'est du petit bidouillage.
C'est de la coquetterie personnelle.
Alors que là, quand vous avez ce maillot rose ou ce maillot jaune ou Amarillo ou de champion du monde, c'est de la magie, quoi.
On va vous parler des coulisses de ce Giro qui n'est pas tout rose dans quelques instants. Mais Marion, sur le côté événementiel, même si c'est arrivé par hasard, même si c'est pas, et sans lui faire offense, le coureur le plus connu de nos Français et de la Groupama.
Mais justement, il mérite tellement sa place au soleil. Et moi, j'adore ce genre d'histoire parce que ce sont des coureurs qui, bien évidemment, font énormément de sacrifices, qui sont souvent des équipiers modèles. Il l'a dit, il a fait beaucoup d'efforts pour Thibaut. Et là, pour lui, le voir scintiller en rose comme ça, c'est la belle histoire. Ça le marquera à jamais. Ça sera à jamais inscrit dans son palmarès. Et ce genre, oui, ce genre d'histoire pour des sportifs, moi, je les adore parce qu'effectivement, ils sont tellement souvent dans l'ombre. Et le cyclisme, c'est tellement un sport difficile que le voir comme ça, avoir sa place au soleil, d'être souriant, d'avoir ce moment qui sera peut-être éphémère, certainement. On va pas se leurrer. En début de troisième semaine, ça va être très compliqué, mais moi, d'avoir son moment de gloire comme ça, son jour de gloire, j'ai adoré cet instant. Et puis c'est quand même quelqu'un qui est très fort contre la montre, et je pense que son temps de cinquième du chrono de dimanche dernier l'a aussi beaucoup aidé. Alors pourquoi Ineos a refusé de rouler, ça c'est une question que j'aimerais poser à Marc, et on va voir ce qu'ils vont faire en début de troisième semaine. Mais en tout cas, qu'il ait su en profiter, qu'il était là, les conditions ont tellement été dantesques depuis le début de ce Giro qu'il mérite totalement sa place au soleil, qu'il mérite ce moment de gloire. Et moi, j'étais extrêmement heureuse de le voir comme ça, parce qu'on sait très bien en tant que sportif que c'est difficile d'être tout le temps dans l'ombre, et là il a entièrement mérité.
Marc, tu voulais ajouter très rapidement,
Bruno Armirail est passé pro dans l'équipe de l'armée de terre. Il s'est blessé un genou, il a été obligé d'arrêter sa carrière professionnelle, il est redescendu amateur, il a repris le vélo progressivement. Il a fait des bons résultats dans des courses contre la montre en amateur. Et c'est mon frère qui lui a proposé de revenir avec nous en tant que stagiaire il y a quelques années. Il a fait 2 mois de course avec nous. Il a été bon et il a re-signé un contrat pro.
Belle histoire pour Bruno Armirail. Les copains,
vous allez le défendre, le maillot, non ?
Non.
Aujourd'hui ?
Non, on va être poli.
Ouais, bah,
on a des obligations, mais on n'a pas non plus une équipe exceptionnelle pour ce type de terrain. Mais non, on va faire honneur au maillot.
Il est en train de bluffer. Il y a Thibaut Pinot qui est 10e. Il est en train de bluffer. J'adore ça. J'adore Marc. On a hâte de suivre cette fin de Giro. Un Giro très particulier cette année. On va justement accueillir le chauffeur de Christophe Cessieux sur le Grand Tour. C'est Pierre-Yves Leroux. Salut, Pile.
Salut, JC. Ouais, c'est vrai que ça, c'est la vérité. Moi, j'ai pas de maillot distinctif, mais je suis son chauffeur. Et c'est pas simple, je veux dire.
Notre spécialiste vélo, ça, je te crois bien. Alors, entre le Covid de retour, la météo catastrophique, des coureurs qui veulent réduire des étapes, en coulisses, Pile, c'est quand même très agité, ce Tour d'Italie.
Oui, parce que le Giro, comme dit Marc, c'est décontracté, mais il faut avoir une doudoune, un parapluie, parce que cette année, la deuxième semaine du Giro, elle est pas rose, elle est rosse. Le ciel lui est tombé sur la tête au sens propre comme au figuré. Alors qu'il vient de remporter le chrono dimanche dernier, le leader Remco Evenepoel est contrôlé positif au coronavirus par son équipe et il quitte la course. C'est le retour de l'ennemi invisible. Mardi, une partie des coureurs demande à raccourcir l'étape en raison des conditions météo. La direction de course refuse et le Giro prend des airs de slalom géant. Sur une chaussée transformée en piste noire, les gadins se multiplient et des sauts d'eau dégringolent sur le nord de l'Italie. Jeudi soir, rebelote, alors qu'un quart du peloton est déjà rentré à la maison, les coureurs, via leur association cycliste professionnelle associée, demandent à supprimer la montée et surtout la descente de la croix de cœur du lendemain. Refus de la direction de course qui accepte néanmoins d'escamoter le parcours des 120 premiers kilomètres. Les coureurs prennent quand même le départ fictif avant de remonter dans les bus et courir 75 kilomètres avec cette dangereuse descente, un camouflet pour tout le monde. Cette semaine, la course s'est transformée en comédia dell'arte, mais la plaisanterie n'a pas fait rire grand monde. Espérons que la troisième semaine soit plus rose que rosse.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, merci monsieur le chauffeur de Christophe Cessieux d'avoir été avec nous. C'est un peu gâché Marc, il est un peu gâché ce Giro ou pas ?
Non, c'est l'histoire du Giro. Chaque année au Giro, vous avez des polémiques, vous avez des histoires. Je me souviens de Philippe Brunel, une des grandes plumes du journal L'Équipe, et qui couvrait chaque année le Giro, et chaque année au Giro, il trouvait des intrigues, des histoires, un peu alambiquées, un peu imaginées de sa part, mais ça c'est l'ambiance et c'est le climat du Giro.
Au-delà de l'ambiance, le vélo, il n'y a que vous qui êtes encore dans le Covid, hein.
Il y a que nous. Ben oui, mais le problème. Non. Il y a pas que nous qui sommes dans le Covid. Il y a que nous qui osons encore en parler et qui mettons en évidence le fait que physiquement, au niveau cardiovasculaire, ça peut avoir des conséquences sur la santé du coureur ou du sportif. C'est ça la vraie réalité. Et la deuxième réalité, c'est que on est ensemble pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Une équipe cycliste sur un grand tour, c'est 3 semaines de vie en collectivité totale. On fait chambre ensemble. ensemble le soir, on dîne ensemble, on voyage ensemble dans le même bus ou dans les mêmes voitures, c'est quand même propice au développement du Covid.
Donc ça existe encore la bulle sur un Giro, par exemple?
Mais la bulle, elle existe de par le fait de la course. On vit quand même en vase clos quand on est dans une équipe sur un grand tour. Christophe le sait, une équipe sur un grand tour, c'est un vase clos. On n'est plus au courant de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On regarde à peine les informations. On est en immersion totale. On met en route le matin à 7h30 ou 8h. On commence au petit déjeuner. Et maintenant, dans le monde moderne de la course, on passe beaucoup de temps dans les transferts. Vous arrivez à l'hôtel, il est 20h30 ou 21h. Vous passez à table et c'est reparti pour le lendemain. Donc on vit en vase clos, ce qui fait que quand il y a malheureusement ces virus qui s'installent, ben c'est beaucoup plus délicat à gérer pour une équipe. Et encore une fois, quand on est sur un moment de course qui dure une journée, ben, si on a quelqu'un qui a le Covid, personne n'en parle, il prend pas le départ et basta, l'affaire est réglée. Si on est sur une course de 4 ou 5 jours, on a un Covid, on écarte et on termine la course comme on peut. Voilà. Et quand tu pars pour 3 semaines, plus les jours qui précèdent la course, ça fait un mois. Pendant un mois, tu es en immersion totale. Donc c'est là où ça se complique par rapport à la situation Covid. C'est la raison pour laquelle on en parle. Dans le foot, on n'en parle plus. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ils se retrouvent au moment du match. Le match dure 90 minutes et après chacun rentre chez soi.
Oui, tu vois, Roland Garros, c'est dans 3 semaines.
Roland-Garros dure 3 semaines, mais il y a quand même un isolement entre chaque joueur et entre les gens qui
tout
sont présents.
Tout le monde partage les mêmes estières, tout le monde partage les mêmes cafétérias, de restaurants.
Vous pouvez aussi avoir du Covid, mais sauf que chez vous, ça dure que 15 jours quand même.
Moi, par rapport à ta question...
Très rapidement, les copains.
Ah, ok. Ah, non, mais je pensais qu'on pouvait développer...
Regarde l'heure, 11h27, et dans quelques instants, Christophe Cessieux arrive pour nous parler de l'Olympique de Marseille.
C'est trop important, là.
15 secondes.
Non, mais je pense que ce Giro garde un vrai intérêt sportif sur la fin de ces 3 semaines. On n'a pas arrêté de nous dire le Giro est très difficile, la dernière semaine va être décisive et tout, donc voilà, hâte de voir si Ineos n'a pas roulé hier, c'est certainement qu'ils ont quand même des plans sur la fin de semaine.
Ils veulent s'économiser.
À tort ou à raison, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un autre débat, mais voilà, il reste quand même de l'enjeu sur ce Giro. Moi, j'ai hâte d'avoir le dénouement, en tout cas.
Ok, en tout cas, la 15e étape sera à suivre en direct cet après-midi sur RMC avec Pierre Amiche au commentaire. Restez bien avec nous, on verra de quelle façon la Groupama FDJ défend ce maillot rose.
À leur maillot rose.
Et, et après, il y aura une étape de repos, donc peut-être le maillot rose pendant quelques jours. On verra si Marc Madio était en train délibérément de nous mentir. Vérification cet après-midi sur RMC. 11h28, on se retrouve dans quelques instants. Le bonbon historique, c'était mieux avant. Toute cette semaine va être une semaine de célébration. Ce sera notamment le cas sur RMC où on célébrera le 26 mai 93, la victoire de l'OM. À jamais les premiers, c'est compté par Christophe Cessieux. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h30.
Jean-Christophe Drouet.
11h31, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, toujours avec Marion Bartoli, Marie Martineau, Marc Madio, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les GG. Les auditeurs, vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG sur un thème du jour. On a évoqué La Rochelle, Caroline Garcia, Dimitri Payet, le maillot rose avec le français de la Groupama FDJ. Donc n'hésitez pas à réagir. Il y avait beaucoup de matière aujourd'hui. Tous les dimanches à 11h30, Christophe Cessieux nous compte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avant-français ressortent le grand jeu. Dwi en tête. Dwi, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
C'était il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, le 26 mai 93. Marseille, à jamais les premiers.
En cette fin mai 1993, le printemps est déjà bien installé sur l'Europe. Il fait chaud, il fait beau, et l'ambiance dans les trains qui se dirigent vers Munich est chaude bouillante.
La gare Saint-Charles transformée en virage sud. Ils sont plus de 4000 à avoir choisi le train destination Munich. Les départs se succèdent. À l'intérieur, on s'installe pour 15 heures de voyage.
Ce soir, vous
pour la deuxième fois en 3 saisons, l'OM va disputer dans quelques heures la finale de la Coupe des clubs champions. Ces coupes européennes qui, en 37 années d'existence, n'ont encore jamais souri au moindre club français. Mais cette année, malgré le pédigré de l'adversaire, on y croit dur comme fer. Et la fièvre blanche s'est emparée de presque tout le territoire, comme la fièvre verte avait enflammé la France 17 ans plus tôt. La tâche, pourtant, ne s'annonce pas aisée face au monstre européen de l'époque, le Milan AC, et ses stars nommées Maldini, Baresi, Rijkaard, Gullit, Van Basten, mais aussi le français Jean-Pierre Papin. JPP, le faux frère, celui qui durant 6 ans a porté le projet marseillais avant de rejoindre le Milan une saison auparavant. JPP, pierre angulaire du projet d'un certain Bernard Tapie, homme d'affaires parisien qui un beau jour du printemps 86 débarque en terrain conquis à Marseille où Gaston Defer, le maire de la ville, va lui céder un OM moribond pour un franc symbolique.
Il était 14h20 cet après-midi lorsque le Falcon Jet en provenance du Bourget atterrissait sur la piste de Marseille-Marignane. À son bord, Bernard Tapie, qui avec Michel Hidalgo veut faire de l'Olympique de Marseille une grande équipe européenne.
Oui, non, mais je pense qu'on va faire. Je pense qu'on va faire. Si on vient, ça sera une très grande équipe.
Alain Giresse. Et les promesses de Tapie vont rapidement se matérialiser. Le 5 août de la même année, le Vélodrome frémit d'impatience lorsque débute la saison face à l'AS Monaco. L'OM, grâce au renfort de Giresse et de Papin, a déjà fière allure et ne va faire qu'une bouchée de Monaco avant que le Vélodrome ne s'enflamme dans un magnifique feu d'artifice du jamais vu à l'époque.
On va maintenant essayer de transformer chaque fois ce stade en théâtre avec une mise en scène différente, des acteurs différents, et puis chaque fois il y aura une histoire différente.
Marseille a le sourire et ne va plus le quitter durant 7 longues années. Leur premier succès d'envergure, les Olympiens le signent en 89 en réalisant le doublé Coupe Championnat attendu sur le Vieux-Port depuis 17 ans.
Formidable, formidable but de Jean-Pierre Papin
qui ne compte rien à rien, et bon ben c'est un but d'anthologie, et bon ben je le garde bien précieusement dans ma tête celui-là.
Mais les frontières françaises sont trop étroites pour l'homme d'affaires qui rêve maintenant de briller à l'échelle européenne. Et l'OM, version 89-90, a de beaux arguments à faire valoir. Dans le documentaire « L'OM, champion d'Europe pour l'éternité » de Jean-Marie Goussard, Gérard Gilly, l'entraîneur de l'époque, raconte le changement de calibre opéré cette année-là.
La Coupe d'Europe, elle devient un objectif à partir du moment où on se qualifie pour la faire. Et là, cette année-là, ça y est, on a ouvert la porte et on a accès au rêve. On n'est plus dans le petit recrutement. Là, on est sur des stars. On envisage même à un certain moment de prendre Maradona.
Si Tapie n'a pu arracher Maradona des griffes de Naples, il a tout de même convaincu l'Uruguayen Francescoli, le Brésilien Moser ou encore l'Anglais Chris Waddle de signer à Marseille. Waddle, qui associé à JPP, va faire trembler les filets européens jusqu'en demi-finale. Vainqueur du Benfica de 2-1 à l'aller au Vélodrome, les Marseillais n'emmènent pourtant pas large lorsqu'ils découvrent l'ambiance du Stadio de la Luz et ses 110 000 supporters déchaînés. Durant 83 minutes, l'OM va s'arc-bouter sur son petit but d'avance jusqu'à ce qu'une main, non pas de Dieu, mais de Vata, vienne anéantir ses rêves.
Il y avait 120 000 personnes au stade. Je crois qu'il y a 120 000 personnes qui ont vu le but de la main. Qu'il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas vu ou qui n'a pas voulu le voir. C'est l'arbitre de l'époque.
Merci, monsieur Van Langeloze. Merci beaucoup. Il a fait ce qu'il fallait. Et ils ont été victimes d'une trop grosse erreur pour qu'on puisse la pardonner.
Captain Larquet ne pardonne pas et Bernard Tapie non plus, le président marseillais, auteur ce soir-là d'une petite phrase qui, quelques années plus tard, lui reviendra en pleine figure.
On a perdu ce match parce que Benfica, effectivement, est un beaucoup plus grand club et plus ancien club que nous. Vous savez, il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça ne se reproduira plus jamais.
La déception passée, Marseille retrouve l'Europe la saison suivante sous la houlette d'un nouveau guide, un vieux sorcier belge nommé Raymond Goethals. L'OM, qui croit pourtant sa dernière heure européenne arrivée, lorsque le tirage au sort désigne le Milan AC, champion d'Europe en titre, comme adversaire en quart de finale. Mais le club olympien a grandi et va créer l'exploit, arrachant le nul un partout à l'aller à San Siro grâce à l'inévitable JPP.
Superbe égalisation de Papin.
Moi j'étais parti pour faire un partout, je suis revenu avec un partout. Pour moi le contrat est rempli.
Bon, bravo, c'est un peu jeune si on serait qualifié. Mais dans 15 jours, ce sera peut-être deux fois plus difficile que ça a encore été à San Siro. Ce sont les Italiens, ce sont les champions et en principe ils se qualifient toujours en déplacement.
Raymond Lascience est inquiet et il y a de quoi. Deux semaines plus tard, dans un vélodrome chauffé à blanc, l'OM va souffrir jusqu'à la 75e minute et le but libérateur de Chris Waddle.
chef-d'œuvre, c'est un bijou.
Michel Denisot, futur président du PSG, est dithyrambique et il y a de quoi. Marseille est en demi-finale, puis bientôt en finale. Et cette fois-ci, les Marseillais sont favoris face au petit poussé de la compétition, l'étoile rouge de Belgrade.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à Bari.
Un nouveau statut que les hommes de Goethals vont avoir du mal à assumer dans le stade italien de Bari, où ils vont connaître la plus grosse désillusion de leur histoire européenne, s'inclinant au tir au but à l'issue d'un match terne. 30 ans plus tard, les larmes de Basile Boli résonnent encore dans toutes les têtes marseillaises.
Manu Amoros face à Stojanovic. Il arrête. Si Panchev marque, l'étoile rouge de Belgrade a remporté la 36e édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est fait. Énorme déception.
C'est la foudre qui vient de tomber sur nous, pauvre de moi.
Une déception que Boli et les siens vont mettre des mois à digérer. Mais Marseille va rebondir. Après un nouveau titre de champion de France, le quatrième d'affilée, l'OM s'engage à nouveau dans cette compétition en septembre 92 avec de nouvelles têtes. JPP, Waddle et Moser partis. Voici Voleur, De Sailly et Bokchis sous le maillot blanc. Et les Marseillais qui ont retrouvé le feu sacré vont faire du petit bois de tous leurs adversaires. Parcours sans faute qui les conduit à Munich pour y affronter une nouvelle fois le Grand Milan.
Il y aura donc le 26 mai la revanche entre le Milan AC de Jean-Pierre Papin et l'Olympique de Marseille.
Mais avant de disputer cette finale, l'OM doit affronter Valenciennes en championnat. Un match à ne pas perdre, car à 3 journées de la fin de la saison, le club olympien n'a que 2 points d'avance sur son dauphin, le PSG. Alors, les dirigeants olympiens vont franchir le Rubicon, proposant à certains joueurs valenciennois une enveloppe pour lever le pied, un procédé que Jacques Glasman, le défenseur nordiste, va dénoncer à la mi-temps du match. Le lendemain, l'affaire fait l'ouverture de Soir 3.
Bonsoir, football, le sport s'efface-t-il devant l'argent? Au lendemain de la victoire de l'OM à Valenciennes, un joueur accuse les dirigeants de Marseille.
Le défenseur de Valenciennes, Jacques Glasman, a-t-il été victime d'une tentative de corruption?
Il me propose une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur.
Une affaire étrange dont on ne connaît pas encore à l'époque les tenants et les aboutissants. Alors, on verra ça plus tard, car désormais tout ce qui compte, c'est qu'enfin un club français devienne champion d'Europe.
Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au stade olympique de Munich, où nous allons vivre une deuxième finale des clubs champions avec Marseille, face cette fois au Milan. C'est un événement, c'est une fête fabuleuse.
Voilà, c'est parti.
Et Marseille, en ce début de match, subit. Heureusement, dans les cages, un jeune gardien, encore chevelu, fait bonne garde.
Van Basten. Bravo Barthez. Et super barré de Barthez. Il y a un petit peu le feu. Massaro encore. Et encore.
Le poteau Thierry.
Moi, il m'a semblé que c'était Barthez. Enfin, ça fait 2 fois en tout cas que Barthez sauve la maison.
Et devant Barthez, un chien de garde mord tout ce qui approche. Demetrio Albertini, le milieu de terrain du Milan, en garde un souvenir ému. Je me souviens d'un match très intense, très dur physiquement, avec beaucoup de fautes. Je me souviens aussi de cet arrière-gauche, Dimeco, je crois, qui m'a taclé le tibia de façon incroyable. Je crois que je m'en souviendrai toujours. Marseille souffre, à l'image de Basile Boli, qui après un quart d'heure, ressent une gêne au genou.
Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, paf, je sens un truc et je suis pas là. Je veux voir Jacques Bailly, je lui dis Jacques, il faut que je sorte parce que je peux pas là. Il dit le boss ne veut pas.
Tapi tient à son défenseur et ne veut surtout pas le voir sortir. Alors Boli serre les dents, s'accroche et à 2 minutes de la mi-temps, va même prendre place dans la surface du Milan lorsque l'OM obtient son premier corner.
C'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'on atteint la fin de la première mi-temps, avait dit Pelé pour le tirer.
Boli dans l'axe, Marcel De Sailly au second poteau. Et but ! But de Boli !
But de Basile Boli sur ce corner. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou.
Le stade explose de joie et à Marseille, on est au bord de l'apoplexie. L'OM mène 1-0 à la pause. Maintenant, il va falloir tenir. Joueurs et supporters vont alors vivre 45 minutes interminables dans les tribunes. La tension est extrême. Guy, supporter historique de l'OM, préfère même tourner le dos à la pelouse.
J'ai plus vu le reste du match.
J'ai eu peur qu'il marque, je me suis tourné. Je ne voulais plus voir le reste du match. Je me suis tourné, je me suis assis. Je voulais rester sur ce but, le Graal.
Les secondes ressemblent à des minutes, voire des heures, et s'égrènent à la vitesse d'une tortue en suquet.
Allez, encore 5 minutes, les petits gars. 5 minutes, et c'est le grand bonheur. On joue la 42e, mon petit bonhomme. Oh là 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 là, que ça passe lentement, c'est fou.
Thierry Roland et Jean-Mimi ont l'œil rivé au chrono quand enfin l'arbitre délivre une ville, un peuple et un pays. Un club français est enfin champion d'Europe.
L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Un mot, Basile Boli, les larmes de Paris, la joie ce soir.
Fini les larmes de Paris, la police n'est pas la joie. Extraordinaire, je ne pleure pas aujourd'hui.
Un tapis qui pleure, c'est pas beau ça.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas être dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Voilà, c'est fait. C'est fait, la France a gagné la Coupe d'Europe. Didier Deschamps l'a bien en main par les deux hanches. Cette Coupe d'Europe, superbe Olympique de Marseille.
Pendant que les joueurs embrassent la coupe et enchaînent les tours d'honneur sur le Vieux-Port, l'ambiance est à la folie. La fête durera toute la nuit et se poursuivra jusqu'au lendemain soir. Et l'arrivée dans un vélodrome chaviré de bonheur des joueurs venus présenter le trophée. 2500 ans après sa création, la cité phocéenne vit ce jour de mai 93 sa plus belle heure. Marseille la rebelle, Marseille la maudite, Marseille décriée, moquée, devient à jamais la première. Et 30 ans plus tard, toujours la seule à avoir eu le privilège de soulever par ses deux oreilles la plus belle des Coupes d'Europe.
Yeah! Bravo Christophe.
Wow. À jamais les premiers, Marseille, champion d'Europe. C'était le 26 mai 93. Merci Christophe Cessieux. Vendredi, on fêtera les 30 ans, émission exceptionnelle du Super Moscato Show en direct de Marseille. Évidemment, cette semaine va battre au rythme aussi de ces célébrations. Un petit mot, les copains. Marion, je commence avec toi rapidement. Ensuite, on a les auditeurs sur cette histoire.
Ce match a été tellement capital, bien sûr, dans l'histoire de ce club. Moi, je l'ai regardé. Et bien évidemment, ces images, Basile qui monte au-dessus de tout le monde, qui est accroché par trois joueurs du Milan, qui coupe au premier poteau, qui va marquer la tête. Bernard Tapie, il demande à sortir à Goutal. Goutal lui dit non. Le boss lui a dit non. T'as dit non. Donc, tu restes sur le terrain. Et puis finalement, les destins croisés, quand même, ce qui est exceptionnel. T'as Didier Deschamps, Fabien Barthez et Marcel Desailly qui vont remporter cette Ligue des Champions, la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000. C'est-à-dire qu'ils ont fermé la boutique, ils ont mis le palmarès à des niveaux incroyables. Et des destins croisés aussi pour JPP qui quitte Marseille pour aller gagner la Ligue des Champions, qui le perd avec le Milan AC qui finalement la gagnera bien sûr en 94 en faisant double avec la Serie A. Et puis surtout Van Basten, trois ballons d'or 88, 89, 92 et qui va se faire torturer les chevilles pendant tout le match par Basile Boli. Et ça sera quasiment un de ses derniers matchs au plus haut niveau. Donc c'est un des matchs les plus marquants de l'histoire du football français. Et quand je le reviens au travers de Christophe et de ses sons, forcément, en tant que supportrice de ce club, ça te donne la chair de poule et c'est des moments mythiques.
Marc ?
Moi, c'est Deschamps. Début de la saga Deschamps, parce qu'il soulève la Ligue des Champions, il est le premier.
Il a soulevé tous les grands trophées du football.
Et quand on voit et quand on connaît la suite qu'a eu Deschamps, c'est le début d'un destin d'exception.
Marie ?
Bernard Tapie, qui était quand même emblématique des personnages incroyables de cette époque-là, de ces années 90, 95. J'ai le souvenir de ma mère dans la voiture qui, quand on écoutait la radio, ne supportait pas de l'entendre. Moi, je comprenais pas pourquoi. J'étais trop petite, tu vois. Et bien sûr que maintenant, je comprends un petit peu mieux. Voilà, ce mec-là, le destin de ce monsieur-là. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps sa femme sur une émission, je crois que 7 à 8, un entretien assez intéressant que je vous recommande. Et elle parle de lui assez librement et je trouve qu'elle refait le portrait. J'ai l'impression qu'elle reste fidèle à la réalité et je trouve à ce mec un destin incroyable. Donc on est hors sportif, mais j'ai l'impression que dans pas mal d'équipes ou comme dans les clubs, on a besoin de leaders et de gens qui viennent pas du monde du sport et qui le rêvent, qui le vivent et qui l'entretiennent et qui font en sorte que les choses arrivent, qui mènent les hommes, quoi.
Mythe, une personnalité fascinante.
Et notre Eric Dimeco National.
Marie.
Qui était sur cette finale.
Et Eric qui écoute l'émission, là. Je
Mais
pense
oui,
qu'il a dû prendre
Eric,
beaucoup
bravo.
De plaisir à écouter Christophe Cessieux. 11h48, on se retrouve dans quelques instants. La suite des grandes gueules du sport. C'est à vous de jouer les auditeurs. Vous composez le 32-16 et vous venez combattre, avec les GG. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h51 de retour dans les grandes gueules du sport avec les GG ce matin. Marc Madiot, Christophe Cessieux, Marie Martineau, Marion Bartoli et vous, les GG, c'est à vous de jouer.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous composez le 32-16. On accueille Julien, non, Mickaël tout d'abord. Mickaël qui est avec nous. Salut Mickaël.
Salut tout le monde.
Merci Bonjour. De ta fidélité, merci d'être avec nous, merci de ton appel et merci eh bien, de trucider tout de suite une GG. Tu vas t'occuper de qui ce matin?
Marc, ouais, je suis désolé, d'habitude j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais là pour le coup il m'a rendu fou sur le thème de l'e-sport. À tel point que j'étais dans la voiture, j'ai coupé le son, j'ai fait le 32-16 et j'ai appelé parce que...
C'était le débat caché
et que je vais l'entendre à la sortie du studio, j'ai une batte de baseball, je vais passer un mauvais quart d'heure.
Non, mais quand même pas, parce que... Mais justement non, parce qu'on va croire que les joueurs de jeux vidéo sont encore violents, mais non, c'est pas vrai du tout. Et c'est ce qui me rend un peu dingue, parce que Marc a dit beaucoup de choses ce matin, notamment le fait qu'on reste cloîtré devant l'ordinateur, etc. Faut savoir un truc quand même, c'est que les teams comme celle-là, comme celle dont vous parliez, Vitality, ce sont des teams professionnels, avec des locaux, les gens s'entraînent tous les jours dans ces locaux, ensemble. C'est pas des gens gros boutonneux avec lunettes devant leur PC, pas du tout. Ce sont des gens qui ont des coachs sportifs, des coachs mentaux, qui prennent soin d'eux, etc. Et justement, on essaye, dans le monde du jeu de vidéo, de donner cet exemple-là maintenant aux jeunes, pour pas qu'il y ait tous ces jeunes-là qui restent cloîtrés dans leur chambre, vous voyez, devant leurs écrans. Et donc, j'avoue que ça m'a un peu rendu fou.
Ok, Marc, tu peux répondre. Je rappelle qu'on se demandait si l'e-sport était devenu crédible. Il y a un événement à Paris, à Bercy, hier, les demi-finales, la finale avec l'équipe française pour la première fois de l'histoire, Vitality sur le jeu Counter-Strike. C'est un major, donc c'est un grand tournoi. J'ai envie de comparer ça à un Roland-Garros, si vous voulez. Voilà, exactement.
C'est un grand chelem, complètement.
C'est un grand chelem de Counter-Strike. Vas-y, Marc, tu peux répondre à Mickaël.
Moi, je vais te répondre très simplement. J'ai un garçon de 12 ans. Et c'est la croix et la bannière pour le faire sortir de sa chambre et de son ordinateur. Je préfère le voir jouer au foot, faire du vélo ou n'importe quelle autre activité.
Il peut faire les deux.
Il peut faire les deux, sauf que
ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis dans
le gamin, il passe plus de temps devant son ordinateur qu'autre chose. Il mange des pasta box parce qu'il veut continuer à jouer la partie qui a commencé, etc.
C'est Marc, ça,
c'est en cela que le e-sport me pose problème. Et puis on sort de la réalité, quoi. On sort de la réalité. Et moi, je suis issu de la terre. Je suis issu de la réalité. Alors,
c'est un truc de génération, là.
Oui, sûrement. Mais
surtout, c'est ça, parce que moi, j'ai un petit garçon qui a 11 ans, qui me voit jouer, parce que moi, ça fait 30 ans que je joue et qui me voit jouer, qui me regarde de l'e-sport. Il fait du foot. Il sort tous les week-ends faire ses plateaux. Il va à ses entraînements. Bien sûr qu'il joue. Et quand il me voit jouer, il dit, il veut faire comme papa, machin et tout. Bien entendu. Mais je pense que les deux sont pas incompatibles. Et moi, je compare un peu à ça.
Non, mais qu'on ait accès à des jeux e-sport, pas de problème. Le problème, c'est que c'est une espèce de gangrène pour les gamins au quotidien, presque pas 24 heures sur 24, mais il y a quand même une espèce d'emprise et de possession du gamin par rapport à ces jeux-là. Et ça, c'est ça qui me gêne.
Ok, bon, ma femme me dit pareil avec le golf, que ça prend beaucoup de temps. Bon, c'est pas là, évidemment.
Mais moi, tu respires le bon air.
Oui, je respire, oui, mais je dis ça comme argument. Oui, mais chérie, je pars 4 heures, mais c'est pour respirer. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Merci, Mickaël, d'avoir composé le 32-16. Et à bientôt sur RMC. Julien nous appelle également. Salut, Julien.
Bonjour, bonjour.
Julien, bonjour. Tu veux t'occuper de qui?
Christophe Cessieux.
Je me le fais.
Vas-y. Calmez-vous.
C'est concernant le match de rugby de La Rochelle. Mm-hmm. En fait, je l'ai trouvé à côté de la plaque. Mais j'ai l'impression qu'il faisait exprès. Comment on peut dire que ce match, il va pas rester dans la légende du rugby, et même je vais aller plus loin, la légende du sport français. Mais je vais vous donner l'anecdote d'hier. J'étais en pique-nique. Et je fais, oh mince, il y a le match. Je mets le match, je vois, La Rochelle est déjà menée 23-7.
Oui.
Je fais, bon, c'est mort, donc on commence à manger, etc. Et d'un seul coup, je sais pas, je me suis dit, bon, je le remets. Et là, je vois, il y a 26-20. À partir de ce moment-là, personne a quitté le téléphone. Jusqu'à l'essai victorieux, etc. Et en fait, tout dans ce match est historique. Déjà, le rapport de force. Deux méga équipes, dont une qui est à domicile, n'a pas perdu depuis 3 ans. Ensuite, il y a le déroulé du match. Une équipe qui ultra domine au début et puis un retournement de situation. Ça, on va s'en rappeler. C'est comme si on disait le match de Ligue des Champions de 2005, la finale, tout le monde va oublier. Bah non.
Entre 3-0 Liverpool à la mi-temps pour Milan
et voilà, et Liverpool revient. C'est des choses qui vont marquer. Et à un moment donné, si dans 3, 4, 10, 20 ans, il y a une finale qui va ressembler, on dira comme La Rochelle.
Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est ce moment de communion que tu as ressenti, toi, en pique-niquant.
Oui, c'est vrai que le scénario est incroyable. Je dis ça un peu pour faire de la provocation ce matin. Évidemment qu'on va se souvenir de ce match. Et je voulais juste dire.
Attention,
la différence et avec l'émotion qui nous étreint quelques heures après la fin d'un match comme ça, évidemment qu'on est tous comme des fous et que l'adrénaline est restée très haut perché après un tel succès. Mais de là à entrer dans l'histoire, il faut quand même garder la tête froide et se dire, moi je me suis mis dans ma peau, en fait je me suis dit, est-ce que dans 20-30 ans j'aurais envie de raconter cette histoire dans un C'était mieux avant. C'est juste comme ça, il faut prendre on parle de l'histoire, il faut prendre du recul, faut toujours prendre du recul. C'est vrai que sur le coup là, moi je suis dithyrambique, ce match était fantastique et ils nous ont régalé et on avait les poils dressés sur les bras, mais il faut prendre un peu de temps. Peut-être que mes successeurs dans 20 ans ont envie de raconter cette histoire et que ce match, effectivement, comme le dit notre auditeur, rentrera dans l'histoire. Je sais pas, mais il faut prendre un peu de recul.
Ok, même si tu es éternel. En tout cas, moi, je me dis ça à chaque fin d'émission. Je me dis, cette émission, elle a été historique et puis après, je réécoute. Merci, MGG. Christophe Cessieux, Marc Madio, Marie Martineau et Marion Bartoli. Marion Bartoli que l'on retrouve ce soir dans Bartoli Time à partir de 19h et Marion Bartoli qui sera en studio la semaine prochaine. C'est Roland Garros, ça sera avec nous.
Pour batailler quinzaine parisienne
dans les grandes gueules du sport.
Je vous embrasse. Par an, je viens.
Passez un très bon week-end. Dans quelques instants, les paris RMC, tout savoir sur cette journée, notamment de Ligue 1. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.